Nous sommes en présence de Léo Henry, Jacques Mukieli et Thalys. Oui, à l'occasion de la sortie de Barayogoy aux éditions Dystopia Workshop. Alors messieurs, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'est Barayogoy ?
Alors déjà, c'est le premier ouvrage des éditions Dystopia, et c'est un prolongement de Yamaloka Terminus, le premier recueil de nouvelles de Léo Henry et Jacques Mukieli. Donc je dis prolongement parce que c'est pas vraiment une suite chronologique, c'est effectivement des textes dans le même univers qui tournent autour de la ville de Yerminadingrad, avec des ambiances et des styles très différents.
Non, je sais pas. En fait, c'est parti. Je peux faire la genèse, sinon du projet. En fait, c'est parti d'une proposition donc de Dystopia Workshop de faire un recueil de nouvelles. Et donc, il a proposé que moi, donc Léo et Jacques, on planche sur un livre. Et c'était Xavier qui m'a dit l'arbre vengeur comme modèle du bouquin. Et donc, j'ai dit aussitôt, d'accord, il y aura des illustrations. Et donc, comme à l'origine, Yamaloka Terminus, le projet tel qu'on l'avait conçu, on voulait que Stéphane Perger fasse des illustrations et qu'au final, ça ne s'est pas fait. C'était aussi l'occasion de pouvoir concrétiser ce rêve-là. Voilà. Et après, sur les contraintes de construction de Barayogoy, en fait, on est parti d'une inversion des contraintes de Yamaloka. Donc, on a essayé de faire le contraire de ce sur quoi on était parti pour faire le premier livre.
Donc voilà, donc résultat, c'est quelque chose qui est en rapport avec Yamaloka Terminus, mais qui est clairement pas une suite ou, comme on dit, une préquelle, quoi. C'est quelque chose qui se passe avant, après, en dessous, derrière, et pendant peut-être. Qui se passe peut-être, c'est ça.
Qui se passe peut-être.
Et c'est ça qui était intéressant aussi. Donc plus matériellement encore, il y a donc 7 textes qui sont tous illustrés. Voilà.
Et justement, au sujet de ces illustrations, de quelle manière, à quel niveau les illustrations ont influencé les textes et vice-versa?
Alors, il y a eu deux choses très différentes en fait. C'est que la plupart des textes ont d'abord été écrits et soumis à Stéphane qui les a illustrés, et ensuite bien sûr dans les corrections et les réécritures du texte, le dessin forcément a une influence, mais pas forcément formelle, je vais arrêter de dire forcément aussi. Et sinon, par contre, il y a un texte qui a été fait de manière un peu plus compliquée, c'est-à-dire que Stéphane a envoyé un dessin, que à partir du dessin, un synopsis a été tiré avec contraintes formelles, personnages, narration, etc. et transmis à l'autre, c'est-à-dire Léo.
Pas comme tu balances.
Ah ouais, je balance. Sans lui montrer le dessin. Donc il a écrit directement à partir de l'interprétation du dessin que j'avais faite. On vous dira pas laquelle c'est. Comme ça, c'est pas vraiment balancé.
C'est plus drôle. Moi, je veux bien, pardon.
Non, c'est assez. Enfin, un des moyens qu'on a essayé de développer aussi pour le rapport entre texte et illustration, c'était d'intégrer Stéphane comme un créateur à part entière. C'est-à-dire, il y a une chose qui est un peu embêtante et un peu limitée, c'est de faire du dessin illustratif, c'est-à-dire de prendre la nouvelle et de décider d'en illustrer un instant. Et donc, il a essayé, il a même totalement réussi de faire des illustrations qui, à la fois, sont représentatives de la nouvelle et en même temps, sont pas des moments. Sont plus liés à leur ambiance, etc. Et du coup, lui-même, il m'en a causé il n'y a pas très longtemps, j'espère que je ne vais pas trahir un grand secret, quoi, mais il disait que c'était aussi le moment où il s'est mis à faire une illustration spécifique qui correspondait à aucun texte. Alors évidemment, il avait lu Yamaloka Terminus et Barayogoy, c'était aussi, d'à son tour, avancer dans la création de cette espèce de magma qui est suffisamment flou et suffisamment ouvert pour y faire rentrer plein de choses, quoi. Et donc du coup voilà, c'était aussi l'idée d'associer Stéphane à sans rapport hiérarchique, on va dire, sans l'illustration suit le texte, l'illustration illustre le texte, enfin c'est vraiment essayer de faire quelque chose en plus, c'était faire un livre en plus et faire des dessins en plus, et puis il y a d'autres projets en plus pour faire des choses, enfin a priori on n'a pas terminé, quoi.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a son nom sur la couverture au même titre que nous, quoi. C'est un livre de Léo Henry, Jacques Mukieli et Stéphane Berger, quoi. Enfin, non, mais d'habitude, dans ce genre de truc, t'as illustré par. C'est, la question, c'est pas illustré par, quoi. C'est un livre qu'on a fait ensemble, de toute façon, quoi.
Donc on a vu comment vous avez collaboré avec l'illustrateur qui est plus qu'un illustrateur, on peut dire donc. Mais vous deux qui êtes vraiment ceux qui avaient écrit les textes, comment avez-vous travaillé ensemble ?
En fait, donc ce qu'on fait, c'est que on s'est donné des contraintes comme d'habitude. On s'est donné une date pour se rendre les textes et à date précise de chaque fois, comme pour Yamal de Caterminus. On se rendait chacun une nouvelle. Voilà. Ensuite, il y a eu un retravail par-dessus, qui est un peu différent d'ailleurs de ce qu'on a fait dans Yamaloka, puisque dans Yamaloka, le principe c'était que chacun corrigeait les nouvelles de l'autre en lui suggérant des modifications, etc. En lui disant non, ça c'est pourri, ah, t'as pas le droit de faire ça, tout ça. mais dans Barra, voilà, surtout des reproches, quoi. Et infondés la plupart du temps, se beaucoup d'insultes, quoi. Et des choses très personnelles sur le physique. Et dans Barra Yogoy, en fait, on a fait encore plus simple, c'est-à-dire qu'on s'est, on s'est passé les nouvelles l'un l'autre. Et on les a corrigés et échangés sans demander l'avis de notre petit copain. Hein. Ce qui est quand même une façon de travailler vachement bien. Et c'est vraiment cool, quoi.
Bon, après, pour les corrections, ça s'est un peu vu. Par exemple, les mots en Corse, dans mes textes, ils sont pas de moi, quoi. Enfin, j'ai assez vite repéré qu'il y avait eu de la correction de sauvage. Et pour l'Alsacien, non, c'est Jacques aussi parce qu'il est tordu. Mais non, mais en fait, mais cela dit, enfin, je remonte un tout petit peu en amont de la question parce que Jacques fait semblant que c'est évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça. C'est que tant Yamaloka Terminus que Barra Yogoy, en réalité, c'est écrit, on l'a écrit évidemment tous les deux, mais en réalité, les nouvelles sont au départ écrites totalement séparément. Enfin, on a essayé plusieurs méthodes pour réussir à produire une nouvelle qui serait réellement écrite à deux, et ça donne. Ça donne effectivement ces nouvelles où on part d'un synopsis et où enfin il y en a un qui fait la structure et les contraintes et l'autre qui rédige en fait une histoire qui est pas à lui, quoi. Mais sinon la majorité des nouvelles sont écrites 50-50 et sont écrites en simultané en plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas la continuité, c'est-à-dire quand on travaille sur un texte, l'autre est également en train de travailler sur un texte, donc on n'a pas accès à tout, et c'est ce qui fait aussi que c'est une expérience extrêmement intéressante. Comment dire, c'est que ces nouvelles ont beau avoir été écrites séparément, etc., sans avoir connaissance de l'ensemble de l'œuvre, pour l'instant, il n'y a aucun lecteur qui a été capable de faire la part des choses, c'est-à-dire de dire ça c'est toi qui l'as écrit, ça c'est Jacques qui l'a écrit. Il y a des gens qui se trompent moins que d'autres, mais c'est rare. Et en fait, dans l'immense majorité des cas, les gens ne voient pas de discontinuité entre les textes. Donc ça, même s'il y a eu un travail de correction commune et de relecture et d'essayer d'homogénéiser les choses, c'est quand même... Moi, je trouve ça super, c'est vraiment très satisfaisant.
Ouais, et y a aussi un truc, enfin c'est assez amusant parce que à chaque fois c'est un processus qui prend un peu de temps, et donc au fur et à mesure où on lit les nouvelles de l'autre, ça influe sur la façon dont on va travailler pour les suivantes. Et je me suis rendu compte en relisant Barra Yogoy qu'il y avait des trucs bizarres, qu'il y avait des thématiques ou des traitements que j'avais l'impression d'être à moi ou à Léo, et qu'on avait échangé, enfin des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Ouais. Je dis trop cool aussi. Putain, c'est nul, quoi. Et inquiétant aussi, quoi. D'avoir un cerveau pour deux, des fois, c'est un petit peu inquiétant. Mais... Oui, pour trois, ouais. Mais de toute façon, ce qui est important, moi, je pense, là-dedans, c'est de sortir du truc. Ça nous permet de sortir du truc de l'auteur tout seul, qui fait son livre tout seul, et c'est son livre à lui, quoi. Enfin, parce que même l'auteur tout seul qui fait son livre à lui, on n'écrit pas tout seul, quoi. Enfin, il y a des gens qui participent au truc. Et dans ce truc-là, en plus, les éditeurs ont vraiment participé. Il y a eu un paquet de relectures. Donc, c'est important ce qu'ils ont fait aussi là-dessus. Tiens, d'ailleurs, tu peux en parler.
De la relecture, je ne sais pas. En tout cas, de la gestation, c'était assez étrange à voir, puisqu'on recevait deux textes à date fixe tous les mois. Et il faut bien avouer que les premiers textes qu'on a reçus, alors certes, nous ont plu, mais par contre, on voyait pas du tout où ça allait, quoi. C'est clair. Même aujourd'hui, d'ailleurs, une fois que c'est terminé, ça peut s'interpréter de beaucoup de manières différentes. Choisir l'ordre des textes n'a pas été simple non plus. Après, on se construit la chronologie qu'on veut sur le recueil. Enfin, c'était très intéressant, mais très déstabilisant. Et finalement, on a eu peut-être presque le fin mot sur les deux, trois derniers textes où il a commencé à se construire quelque chose, mais très ténu, et peut-être qu'on s'imagine d'ailleurs plus qu'autre chose.
Oui, donc du coup, en fait, il n'y a pas eu de sélection de textes avec un certain nombre de textes. Il n'y en a eu que sept, en fait. Dès le début, c'était prévu sept textes.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Non, pardon.
Non, dès le début, c'était prévu 5 textes en fait, et finalement, enfin voilà, ça a viré 7 au grand soulagement de tout le monde, je crois, parce qu'avec 5, ça faisait un livre trop mince d'un côté, et puis aussi il manquait à mon avis la liaison. Après, je peux parler des thématiques, pardon, c'est pas du tout le bon moment, mais en fait, mais c'était rigolo parce que le fait de travailler sur la méthode, de parler de la méthode de travail, ça me paraît assez intéressant. Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant avec cette expérience de Bara Yogoi, c'est qu'on est parti sur les contraintes communes avec Jacques, sur l'inverse, vraiment. C'est-à-dire, on a décidé de faire, par exemple, aucun récit à la première personne, puisque Bara Yogoi, Yamaloka, c'était que des témoignages. Donc là, c'est que la troisième personne, etc. Ça se passe pas à Yerminadingrad. Donc, essayer de faire l'inverse. Et en réalité, ce qui se passe, parce que, évidemment, Yamaloka Terminus, c'est terminé. Enfin, c'est pour ceux qui ont lu le recueil, ou même pour ceux qui n'ont pas lu, c'est pas un énorme spoiler. Yerminadingrad est détruite, ou a toujours été détruite, ou on sait pas exactement à quelle date et on sait pas exactement dans quelles conditions. Et donc, du coup, le fait de continuer à parler de Yerminadingrad impliquait le fait que Yerminadingrad n'existait plus. Et en fait, ce qui me paraît étrange, alors après, c'est peut-être que moi qui ai ce sentiment-là, c'est que, comme disait Thalys sur le fait qu'on ne sait pas très bien où ça va, c'est qu'il y a quelque chose qui tient le tout quand même. Et ce quelque chose est, à mon avis, absolument pas définissable. C'est quelque chose de l'ordre de l'ambiance, c'est quelque chose de l'ordre du rapport à la ville et du rapport aux gens, mais qui fait que c'est aussi partageable et c'est aussi transmissible dans d'autres médiums. Donc c'est aussi ça qui fait que Stéphane, à mon avis, a pu s'approprier ce qui fait... cette œuvre entre guillemets, quoi, et qu'il a pu créer à son tour, c'est qu'il y a la place pour ça, et que ce qui fait la cohérence de Yamaloka Terminus, c'est pas clairement pas une ligne historique, par exemple. C'est pas on serait incapable d'en faire un background cohérent de jeu de rôle ou de quoi que ce soit. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas un univers qui existe en soi. C'est quelque chose qui est bâti sur du ténu.
Du coup, j'ai l'impression que les éditions Dystopia vous ont laissé quand même une grande marge de manœuvre. Est-ce que c'est différent avec vos expériences avec d'autres éditeurs, même pas forcément pour Yamaloka Terminus, tous les deux?
Oui, parce qu'ils sont psychotiques, un petit peu, quoi. Ils ont des problèmes.
On est dangereux. Hein.
Ah, non, mais ça va pas bien, quoi. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont parlé des avances somptuaires qu'ils nous ont consenties aux autres éditeurs. Ils se sont fait moquer d'eux, quoi. C'est un truc délirant. Quoi. Ils nous ont donné de l'argent pour écrire un livre et après ils nous ont dit faites ce que vous voulez. Si ça nous plaît, on le publiera, quoi. Donc c'était pas facile.
Ils nous ont donné l'argent avant.
C'est vrai. Ils nous ont donné l'argent après. Ils nous ont fait écrire le livre et ils ont dit si ça nous plaît, on vous donnera des sous.
On est psychotique, mais quand même on a nos limites.
C'est ça. Et après c'est leur premier bouquin et donc c'était aussi amusant de les voir se transformer en éditeurs petit à petit, quoi, et commencer à avoir des espèces d'inquiétudes irrationnelles et des trucs de malade sur la mise en page, etc. Machin. Le chef maintenant ne lit plus les livres pareils, trouve les coquilles, etc. C'est assez drôle, quoi.
Ouais.
Mais parle, éditeur, parle.
Je ne peux plus lire un livre sans regarder la maquette. Je vois des veuves et des orphelines partout, des tirets en bas de page. Enfin, c'est horrible. Donc voilà, c'est un travail monstrueux sur la maquette, donc voilà, qui nous a tous traumatisés. Sauf les auteurs, il faut bien le reconnaître, qui étaient déjà traumatisés, donc c'est pas un souci.
Moi, c'est
voilà, donc, ils sont tous d'accord.
Moi, je peux dire encore un mot.
Je suis bavard. Hein. Non, mais c'était sur le... J'en rajoute, hein, moi je reviens toujours au même endroit, mais le travail de collaboration avec les éditeurs, c'est aussi, à mon sens, vraiment très bien passé. Enfin, et parce que ça s'est passé aussi, c'est qui est extrêmement rare, ça s'est passé dès le début. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait un projet éditorial et qu'on a travaillé pour se mettre d'accord et faire un truc qui plaisait à tout le monde, et y compris l'éditeur, c'est quand même assez rare. Donc là, pareil, j'ai l'impression que ça s'est passé aussi comme avec Stéphane, ou comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique. Quoi. C'est pas on est arrivé avec un livre et il nous dit ouais, moi je suis l'éditeur, il faut faire ça, ça, ça pour que le livre, sinon je ne publie pas, etc. Enfin, qui sont quand même des situations qui sont plus courantes où proposer un livre à un éditeur et l'éditeur a dit oui, il faudrait qu'il soit. Ou l'inverse, enfin je sais pas comment dire quoi. Alors que là c'était, enfin voilà, on est parti, on avait le format, avant même d'écrire le livre, on avait le format machin, Xavier il a dit ouais je veux des rabats, donc on savait qu'on aurait des rabats, donc je sais pas comment dire ça. Non mais c'est quelque chose d'assez important aussi, de savoir à quoi va ressembler l'objet physique avant de commencer le boulot. Et voilà, et je crois que tout le monde était satisfait de la façon dont ça s'est passé, mais parce qu'on est des gens à peu près raisonnables quoi, malgré nos... Disons qu'on a des névroses compatibles quoi.
Je reviendrai sur l'objet, mais d'abord, je rebondis sur ce que disait Jacques au sujet des éditeurs, enfin des membres du groupe Dystopia qui devenaient des éditeurs, parce que en fait c'est votre première fois. Alors pourquoi faire de l'édition et comment ça s'est passé?
Et pourquoi Jacques et Léo Henri? Tout à fait.
Pourquoi l'édition? Parce que c'est amusant, et puis finalement avoir un objet tel que Baryogoy entre les mains, voilà, c'est, je sais pas comment dire, mais quelque chose d'assez émouvant finalement. Enfin voilà, on a créé quelque chose, et puis voilà. Après, pourquoi Jacques et Léo? Parce qu'on avait quand même bien flashé sur Yamaloka Terminus, qui était arrivé un petit peu, je veux dire, presque par hasard, puisque l'Altiplano est pas un éditeur de SF. Mais bon, était arrivé effectivement à la librairie Scylla, il y avait eu des dédicaces, le livre avait plu, nous avait plu. Et puis on trouvait le travail de Jacques et Léo assez étrange, comme ils en ont déjà parlé, c'est-à-dire cette manière de se passer les textes les uns les autres, ces contraintes formelles. Donc voilà, on s'est dit, bah, on va voir ce que va donner l'expérience, et puis ça donne Baryogoy. Voilà.
Ok, mais en fait, ce que je voulais que tu essayes d'aborder, c'était le fait que normalement, il y a une association à la base qui a un autre but complètement. Je sais pas si c'était vraiment prévu de faire de l'édition, en fait.
Le but premier, c'est pas de faire de l'édition, c'est pas le but deuxième non plus. Il y a effectivement plusieurs buts. Le but, c'est déjà aussi de mettre en valeur des auteurs, qu'ils soient français ou étrangers. Un des buts finaux, ce sera de faire venir des auteurs étrangers, par exemple en France. Soit avec des partenariats avec d'autres éditeurs, soit de nous-mêmes si on y arrive. Il va falloir vendre quand même beaucoup de Baryogoy pour y arriver, c'est en passant. Voilà, c'est une manière de voilà, d'être dans le milieu, pas forcément SF d'ailleurs, littéraire, entre guillemets, au sens large. Voilà. Et puis d'agiter un peu tout ça, de travailler avec des gens, des illustrateurs, des auteurs, des éditeurs.
Je vais du coup aborder le sujet de l'objet livre Baryogoy, qui, moi, la première fois quand je l'ai eu entre les mains, ma réflexion, c'était quand même un livre anticommercial, on va dire. C'est-à-dire que finalement, on ne voit pas vraiment le titre, les auteurs ne sont pas trop mis en avant, ils sont tout petits, les noms, et on ne voit pas le prix, il n'y a pas de quatrième de couverture, il y a des rabats, qui, avec la couverture qui s'étale sur les rabats, c'est très 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 joli, mais du coup, bon, vous voulez vraiment en vendre ou...
Si possible, on veut vraiment en vendre, oui. Léo parlait des contraintes formelles qui se sont mises pour écrire. Nous, on s'était comme mis quelques contraintes, ou quelques directions, on va dire, pour l'objet. La première, c'était pas de quatrième de couverture, parce qu'on a horreur des quatrièmes de couverture. J'ai pas souvenir de quatrième de couverture qui soit réussie sur un livre. Soit on en dit trop, soit on en dit pas assez, soit on donne des pistes qui sont fausses, etc., etc. Donc après, de se dire pas de quatrième de couverture, ça, on a, je pense, aussi poussé l'idée un peu plus loin, c'est de se dire, voilà, on va pas non plus mettre juste les noms d'auteurs en avant dans un cadre, voilà, on va intégrer l'ensemble à l'objet. Après, les rabats, ça c'est Monsieur Xavier Vernet, hein, faut bien le dire, qui est un dingue de rabats, donc on a mis des rabats. Voilà, celle-là est une névrose compatible pour le coup, parce que ça a permis à Stéphane Percher de faire une couverture qui est assez étonnante, cyclique d'ailleurs, entre guillemets, c'est-à-dire que les rabats se rejoignent. Donc effectivement, ça donne un objet un petit peu surprenant sans doute, mais tout à fait voulu en tout cas.
Et ce qui est intéressant, encore une fois, moi, c'est un espèce de truc de névrose aussi, c'est que toutes les choses dont tu parles, justement, quatrième de la couverture et nom des auteurs, à mon avis, ça a évidemment des fonctions utiles dans l'édition telle qu'elle existe, quoi, mais c'est une fonction littéraire qui me paraît pas évidente, quoi. Que ce soit à la fois l'auteur, celui qui est responsable et à qui on doit le texte, et la quatrième de couverture qui est toujours une manière de dire comment il va falloir lire le livre. Là, ce qui est mieux, c'est que le lecteur est confronté directement, un, à l'objet en tant que tel, quoi, à ce qu'a créé Stéphane, notamment au niveau de la couverture, en rapport avec ce qu'on a fait, et après au texte, quoi. C'est les choses qui comptent, quoi. Le reste, on s'en fiche de nos noms, quoi. Si on veut écrire nos noms en grand, on fera des pancartes.
Oui, ça permet au lecteur effectivement de ne pas avoir d'a priori au moment d'ouvrir le livre. On sait pas ce qu'on va lire, en fait.
Ah oui.
En fermant, je pense qu'on
mais
sait.
Jamais, on ne sait
voilà.
Jamais ce qu'on va lire.
Non, mais on a l'impression que l'éditeur va nous guider d'une certaine manière, ou une personne va vous dire voilà ce que j'en ai lu. Là, effectivement, quand vous avez Barry Ogoy entre les mains, bah, bien embêté pour se vous dire qu'est-ce que je vais lire.
Effectivement, c'est très commercial.
Mais du coup, c'est un côté effectivement mystérieux, côté un peu surprise, qui je trouve qu'il change agréablement. Quoi. Moi, quand j'achète un livre, je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Donc d'un pur point de vue lecteur, ça ne me perturbe pas plus que ça. Effectivement, après, c'est assez original. Effectivement.
Bon, une dernière petite question à l'éditeur qui est quels sont les projets futurs de Dystopia Workshop ?
En termes d'édition, il y a un projet de revue. On va pas trop parler planning, parce que c'est pareil pour Barry Ogoy, on avait annoncé au départ un mois de sortie, et bon, les contraintes font que forcément ça dérape toujours un petit peu. On va espérer que pour la fin d'année, il y a en tout cas une revue. Et puis pour l'année prochaine, un deuxième recueil qui est en bonne préparation, c'est-à-dire qui est déjà bien avancé. Où là on va mettre en avant un autre couple, on va dire, mais là qui serait un couple traducteur-auteur, qui serait un projet dirigé par Mélanie Fazi avec un choix de nouvelles de Lisa Tuttle, qui devrait se signer bientôt.
Qu'elle choisit elle-même.
Qu'elle choisit elle-même, tout à fait.
Ce qui change le rapport avec le traducteur aussi, c'est vachement intéressant. Vous faites des trucs de fou quand même chez
Dystopia. Des trucs bizarres.
Et sinon, Irmin Adingrad n'est pas mort. Hein. Il se passe toujours des trucs en rapport. Mais non, parce qu'il a dit c'est ma dernière question.
C'est la vraie dernière question, c'est vos projets.
Ah, c'est la vraie dernière question. Attends, vas-y, pose-la.
Alors, la vraie dernière question à Jacques Mukieli et Léo Henry, c'est quels sont vos projets à vous ? En dehors de Dystopia Workshop ou avec Dystopia Workshop, vous avez le droit de recoucher avec les éditeurs.
C'est ça. Alors pour Irmin Adingrad, c'est pas tout à fait fini, mais en fait je prends le micro pour pouvoir le passer à Léo, parce que c'est lui qui va pouvoir en parler mieux que moi. Hein,
ok.
La musique, tout ça.
Non, en fait on est. Enfin moi je suis très content parce que pour l'instant on est au frémissement de ça, mais on a été contacté par des gens très sérieux qui font de la musique très sérieuse, qui enseignent la musique dans un conservatoire etc. et qui veulent faire qui préparent un spectacle pour 2011 et qui voudraient associer Stéphane pour des dessins et l'univers de Irmin Adingrad. Donc a priori on est parti là-dessus. Et voilà, ils font de la musique qui font Blink, donc a priori ça
devrait être bien.
Ça correspond avec des ordinateurs qui font donc a priori ça devrait coller. Voilà, ça c'est pour la suite de Irmin Adingrad. Et puis peut-être après d'autres choses, je sais pas. On n'a pas causé encore.
Et personnellement, tu fais quoi ?
Et alors personnellement, ah, merci Jacques. Je voulais dire parce que c'est. Enfin, peut-être ça intéresse des gens. J'ai fait une bande dessinée, un one-shot de BD avec Fred Boot, qui avait fait une BD avec Fabrice Collin il y a quelques années, qui s'appelait Gordo. Et donc, on a fait une grosse bande dessinée de presque 90 planches et qu'on va publier gratos dans l'internet à compter de septembre. Voilà. Donc, ça s'appelle Rainbow Mist. C'est très vaguement fantastique. C'est sur le jazz dans les années 60. C'est une
histoire d'amour triste à pleurer, quoi. Enfin, on a essayé. Enfin, c'était vraiment la contrainte, d'essayer de faire la chose la plus triste possible. C'est absolument incroyablement dessiné. Enfin, vraiment, c'est à côté. Si vous avez trouvé que le dessin de Gordo était bizarre, c'est du pipi de chat, parce que vraiment, vraiment, Fred est un. Enfin, voilà, il a une formation de graphiste, et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'explorer la façon dont on peut utiliser le dessin pour traiter les ambiances. Donc il y a 6 styles graphiques différents sur cette BD qui suit la progression dramatique. Non, c'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est un objet totalement épatant. Après, voilà, on a eu des petites galères d'éditeurs qui fait que ça sera pas publié en papier, ou en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, ce sera gratos dans l'internet. Moi, je vous encourage à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Voilà.
Et Jacques Mukieli, des projets?
Ben sinon, on écrit toujours des livres, hein, mais Léo, on n'a pas parlé du livre qu'il est en train d'écrire.
Alors, parce que je suis bavard.
Hein, c'est ça, c'est parce qu'il est trop bavard sur le reste, mais toujours est-il qu'il est en train de finir un roman qui est bien, quoi.
Enfin,
moi, je suis moins en train de le finir que lui, mais je suis en train de l'écrire, quoi. Voilà. Donc, j'essaie de faire ça. Et vous n'en saurez pas plus, ce qui est pas mal, parce que moi non plus, je n'en sais pas plus. Non, ne soyez pas inquiets. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Bonjour, vous êtes sur ActuSF.
Merci bien, messieurs. Un mot de la fin.
Je pense que non.
Très bien. Merci, messieurs. À la prochaine.